maintenant, est-ce qu'il y a du son maintenant? Est-ce qu'il y a du son maintenant? Est-ce qu'il y a du son maintenant, Houston? Est-ce qu'il y a du son? Oui, très bien. Alors, on y va. Alors, c'est parti. Boker Tov le Koulam. Et bienvenue dans cette nouvelle étude. Nouvelle étude après que nous ayons terminé la Tefila. Baruch HaShem, maintenant on sait prier. Et on avait dit que la Tefila était en fait ce qui nous restait de la Nevoa. Ça, c'était au tout début de notre étude de la Tefila. Donc, maintenant qu'on a terminé la Tefila, eh bien, on revient encore plus en avant. Et il est temps de se poser un petit peu la question, qu'est-ce que c'est que la Nevoa et quelles sont les Nevoates principales qui nous touchent, qui sont pour nous le peuple d'Israël. Alors, avant de commencer l'étude, je tiens à dire la chose suivante. Notre étude va être évidemment tronquée, va être évidemment partielle. Parce que si tu veux savoir ce que la Nevoa a à te dire, c'est tout ça qu'il faut étudier. Il faut étudier le Tanakh en entier, le chapitre 1 de Bereshit jusqu'à la fin de Divrei Hayamim. Là, tu sauras ce que vraiment la Nevoa, elle veut dire. Nous, on a décidé que on n'allait pas forcément étudier tout le Tanakh du chapitre 1 jusqu'à la fin de Divrei Hayamim. On ne va pas non plus étudier tout le Nakh, parce qu'il faut être un petit peu réaliste. Donc, voilà ce qu'on a proposé. Notre étude va être une étude de la Nevoa, des différents Nevim, des différents prophètes, et on ne va pas étudier chaque prophète en entier. Alors, certains, oui. Quand on va arriver dans Tréhassar, dans les 12 petits prophètes, bien certains prophètes n'ont qu'un seul chapitre. Donc, si vous voulez, là, évidemment, on va étudier toute la névoie de ce prophète-là. Mais quand on va parler des grands prophètes, eh bien, on va sélectionner ce qui, d'après ce que j'ai appris, est l'essentiel de leurs propos à ces différents prophètes. Et on va essayer, évidemment, de comprendre dans quel contexte chacun de ces Nevi'im parle et comment cette Nevoa s'inscrit dans le contexte. Car évidemment, même s'il est vrai que Nevoa Sheutzrecha les Dorot Nirteva, nous dit le Talmud dans le traité de Megillah, qu'une Nevoa qui sert les générations est inscrite dans le Tanakh, donc c'est-à-dire que ce qui est marqué là n'est pas que pour l'époque du Tanakh, mais pour toutes les générations, c'est vrai, mais c'est tout autant vrai que ça parle particulièrement à la génération à qui la névoie est donnée. Donc voilà, nous allons commencer. Et alors, je vous vois déjà venir de la même façon que dans notre étude de la Tfila, j'ai voulu qu'on passe sur toutes les brachot de la Tfila et je n'ai pas voulu qu'on fasse un mix, on va prendre que la bracha de la Refoua parce qu'elle me plaît bien. Eh bien, vous avez dit que c'était finalement à moi que venait la responsabilité de trancher ce qu'on allait étudier. Et donc, je tranche. Et en fonction de cette tranchade, eh bien, je décide que on va passer effectivement sur tous les Nevi'im, comme on vient de le dire. À savoir, on va prendre les chapitres principaux. En général, on va essayer, même dans les grands prophètes, de ne pas aller à plus de 4 Nevoot pour le même prophète. Et ce qui veut dire qu'on va commencer dès le départ. Alors, dès le départ, j'entends effectivement la Torah de la Nevoa a commencé avec Adam Harishon. Mais on ne va pas parler de Adam Harishon pour la simple raison que toutes les péripéties de Adam, de Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef et Moshe sont réunies dans la Torah de Moshe. Et Torah de Moshe, c'est Mashuacher. Torah de Moshe, en vrai, ce n'est pas vraiment de la névoie. Nous dit le Rambam dans l'introduction du Pérouch à Mishnah, du commentaire de la Mishnah, le Rambam nous dit que Moshe Bichlal ou l'Onavi. On l'appelle Navi parce qu'on n'a pas d'autre mot pour le qualifier. Mais il est bien au-delà de la névoie normale. Donc Moshe, c'est encore autre chose. Ce qui veut dire que nous, on va commencer avec Yehoshua. On va commencer avec Yehoshua et je vous vois venir. Ah non, mais on connaît Yehoshua. Yehoshua, Shoftim, Shmuel, Melachim, on connaît. Ken, on connaît, Nachon. Et pourtant, si on veut faire une étude complète sur la névoie, eh bien, on se doit de comprendre par quoi elle commence, quels sont les Edgarim, quelles sont les premières questions de la Nevoa, quelles sont les premières problématiques et quels sont les enjeux de la prophétie. Donc, maintenant notre support, c'est le Tanakh. D'accord ? Donc, notre premier cours nous emmène au livre de Yehoshua, chapitre 5. Voilà ce qu'on va étudier aujourd'hui, la Nevoa de Sefer Yehoshua, Perek Hey. Alors, D'aucuns pourront dire, non mais Yoshua, c'est un livre d'histoire, c'est pas un livre de névoie. Ni. Toute la névoie, c'est de la névoie. C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu décide de dire à Yoshua des éléments historiques, ben c'est de la névoie. Il va falloir essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dit ça à Yoshua et pas autre chose. Donc, je vous laisse 10 secondes pour prendre Tanakh, Sefer Yehoshua, chapitre 5. Ok ? Alors, quel est le contexte ? Quel est le contexte de Sefer Yehoshua Bichlal ? Quelle est l'idée générale ? Eh bien, l'idée générale, c'est qu'on est après Moshe. Tout part de là. Toute la névoie qui est ouverte par Yehoshua, après Moshe, eh bien, se résume par le fait qu'elle est après Moshe. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, nos sages vont nous enseigner que Moshe parlait de ce qu'on appelle Aspaklaria Meira. Il parlait par... Alors, Aspaklaria, ça veut dire un miroir. Un miroir direct. En d'autres termes, Moshe, c'est même pas un miroir, c'est un... C'est, comment on dit, une vitre transparente. C'est-à-dire que tout passe directement d'Akadosh Baruch Hu à Moshe. Alors que les Nevi'im, Yoshua en premier et après lui, eh bien, c'est Aspaklaria chez Einena Meira, c'est-à-dire que c'est déjà plus aussi clair, plus aussi évident. Une autre grande différence, c'est que Moshe, lorsque Dieu lui parle, eh bien, c'est comme lorsque nous, on parle. Les autres Nevi'im, même si pour Yishayahu, il y a une petite différence, et on en parlera dès qu'on arrivera à Yishayahu, pour les autres Nevi'im, eh bien, lorsque Dieu leur parle, ça leur chamboule toute leur force de vie. Ils s'effondrent, ils sont complètement pris au dépourvu par cette névoie. Ce qui veut dire que le dévoilement divin, à partir de Yehoshua, est un dévoilement, certes, mais un dévoilement qui n'est plus en osmose directe avec la Chaïm. Cette perte de niveau, eh bien, on la retrouve déjà dans la première Mishnah de Pirkei Avot. Dans la première Mishnah de Pirkei Avot, eh bien, on nous dit Moshe kibel Torah misinai ou Messara li Yehoshua. Alors, on pourrait se dire Moshe a reçu la Torah du Sinaï et il l'a transmise à Yehoshua. Quel problème ? Aucun. Si on avait continué en disant Ve'yoshua massar laskenim, c'est pas le cas. Il y a marqué Ve'yoshua laskenim, veskenim lanvim, ou nvim, messarua lanchek neset agdola. En d'autres termes, la notion de l'imsor n'apparaît pas dans chaque maillon de la chaîne. Seulement entre Moshe et Yehoshua et entre les nevim et anchek neset agdola. Pourquoi ? Eh bien, parce que la messira, c'est également une perte de niveau. Chachamim, il y a une autre perte de niveau qui est qu'on n'est plus Nevi'im. Donc, en d'autres termes, la névoie de Yehoshua, ça va être d'abord avant tout comment survivre à cette chute de l'après-Moshe. Comment est-ce qu'on va survivre ? Quel est l'objectif donc de l'après-Moshe ? Moshe, c'est l'idéal. Moshe, il n'y a rien de plus à attendre. Moshe, c'est le top. Moshe ou Shlemut. On dira le Talmud dans Maseret Baba Batra que le visage de Moshe ressemblait au soleil, alors que le visage de Yehoshua ressemblait à la lune. Quelle différence, me direz-vous ? Eh bien, le soleil, il est toujours rond, toujours parfait, toujours shalem. Alors que la lune, elle est be'ishtalmut matmedet, elle est en perfectionnement perpétuel. En d'autres termes, la Torah de Moshe, c'est la shlemut. La Torah de Yehoshua et de tous les Nevi'im qui vont suivre, c'est on avance. Et c'est exactement par cela que nous allons commencer. Après toutes ces introductions, nous pouvons rentrer dans le texte. Donc, Sefer Yehoshua Perik Hey, Vaikishmoa kol malchei ha'emori, asher be'ever ha'yarden, yamma vechol malchei ha'kena'ani, asher al ha'yam, et asher ovish Hashem et me ha'yarden, mipenei b'nei Israël. Adovam, vaimas levavam, velo ayabam, od ruach, mipene bene Israël. Toute la névoie de la terre d'Israël s'ouvre sur le fait qu'on a traversé le Jourdain. Vous allez me dire, rien de bien d'étonnant. On avait traversé la mer Rouge avec Moshe, donc là, on a traversé le Jourdain. Nachon. Il y a une différence pourtant entre l'ouverture de la mer Rouge et l'ouverture du Jourdain. Dans l'ouverture de la mer Rouge, on parle de kriya, de déchirure. C'est quelque chose de négatif. Alors que pour le Yarden, on nous dit que les eaux du Yarden allou ned echad. Il n'y a pas de déchirure. C'est le cours d'eau qui tout simplement est monté vers le ciel et donc qui a permis que l'autre côté s'assèche. En d'autres termes, la névoie de Yehoshua ne demandera plus une brisure pour l'atteindre, mais au contraire, l'objectif est que maintenant il y ait une unité entre le créateur et la créature. Alors ça semble contradictoire avec ce que je viens de dire, puisque j'ai dit qu'avec Moshe, il n'y avait pas, c'était au top, et là maintenant c'était Shalem, et là maintenant on est obligé de participer. C'est exactement cela. Quand c'est Shalem mais que ça vient de l'extérieur, je n'ai pas mon mot à dire. Je ne suis pas un acteur de la prophétie. Alors que là maintenant, eh bien, on va me demander à moi, au prophète, d'être un acteur de la prophétie. Alors allons-y. Je vous ai dit que le but du jeu maintenant était d'avancer, d'évoluer. Eh bien, c'est parti. Nous rentrons dans le texte. Donc, verset Bet du chapitre 5 du livre de Yehoshua. Ba'et ha'i amar Hashem el Yehoshua. Ase lecha charvot tzurim. Veshuv mol et bnei Israël shenit. Comment? La première chose que Dieu a à dire à Yehoshua ici, c'est quoi? Eh bien, et Allah, on vient de rentrer en Eretz Israël, ça y est. C'est-à-dire que le chapitre d'avant, c'est la traversée du Jourdain. Donc maintenant, on vient de rentrer en Israël. La première chose que Dieu a à dire à Yehoshua, fais-toi des couteaux et fais la Brit Mila à tout le monde. Alors, la première chose que j'ai à dire, c'est quoi? C'est la première chose que tu as à dire. Mais avant ça, pourquoi il y a besoin de faire la Brit Mila à tout le monde? Quoi? Les gens, ils ne sont pas Brit Milés? Les gens n'ont pas la Mila? Comment ça se fait que les gens n'ont pas la Mila? Et la réponse, elle est très simple, Rabotai. Personne n'a fait la Brit Mila parce que... Parce que quoi? Parce qu'on est en Égypte. Nous, mais... Ben, en Égypte. On fait la Brit Mila ou on ne fait pas la Brit Mila? Ken, on fait la Brit Mila en Égypte. Mais ça fait 40 ans maintenant qu'on est sorti d'Égypte. Et pendant ces 40 années où on est sorti d'Égypte, on était Baderer. Comme on était Baderer, eh bien, il n'y a pas de Brit Mila Baderer. Comment ça, il n'y a pas de Brit Mila? Ben, c'est la halakha. On n'a pas le droit de la moule. Si on doit faire une Brit Mila, après on n'a pas le droit de bouger pendant 3 jours pour laisser le temps à la plaie de se refermer. Puis quoi nefesh. Or, dans le désert, comme on ne sait pas quand la nuée va bouger, donc on est en stand-by permanent de bougeage. C'est-à-dire qu'à tout moment, Akadosh Baruch Hu peut dire « Yala, on y va !» Nous, on sait, rétrospectivement, que Bémet, on n'a pas bougé tout le temps. Que sur les 39 années du désert, eh bien, pendant 19 ans, on est resté à Kadesh. Donc, pendant 19 ans, on n'a pas bougé. Ils auraient pu faire un Brit Mila. Seulement, pendant 19 ans, on n'a pas bougé. Mais ils ne le savent pas. C'est-à-dire que pour eux, chaque jour est une possibilité de peut-être aujourd'hui, la nuée, elle va bouger. Donc, si la nuée, elle va bouger aujourd'hui, faut être prêt à partir. Donc, s'il faut être prêt à partir, impossible de faire la Brit Mila. C'est ma kavana de moule chenit. Chenit, c'est par rapport au fait qu'on faisait la Brit Mila en Eretz Mitzrayim et que maintenant, on ne l'a pas fait pendant 40 ans. Moule chenit. Chouve. Moule et bene Israël. Alors, putain, la Brit Mila, hein, c'est la première mitzvah que Dieu va donner à Abraham. Et c'est la première mitzvah que Dieu va donner à son successeur, Yehoshua. Comment cela? Eh bien, Rabotai, la Brit Mila, son objectif, c'est quoi? Pourquoi on a reçu la Brit Mila? C'est quoi le but de cette mitzvah-là? Eh bien, le but de la Brit Mila, tel que c'est marqué dans le livre de Bereshit, le but de la Brit Mila, c'est une brite, une alliance, Donc, OK, une alliance entre nous et Dieu. Pourquoi ? Ben, pour recevoir la terre d'Israël. La Brit Mila sans que nous sommes les descendants du peuple que Dieu a voulu emmener sur cette terre. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Et donc maintenant que Yahushua est celui qui va faire rentrer le peuple d'Israël en terre d'Israël, eh bien, on ne peut pas rentrer sans Brit Mila. Alors, d'un autre côté, je vais aller un petit peu... Vous savez quoi, avant de continuer, d'ailleurs, d'après la halakha, il y a quelque chose d'assez bizarre. Chez les Ashkenazim, lorsqu'on fait la Brit Mila en Chutz la'aretz, on ne dit pas la bracha de Shehecheyanu. Chez les Sfaradim, on dit tout le temps, parce que les Sfaradim, ils n'ont pas de problème avec la Simcha. Mais chez les Ashkenazim, quand on fait la Brit Mila en Chutz la'aretz, on ne dit pas Shehecheyanu. Lama, eh bien, nous disent les Rishonim Ashkenazim, parce que lorsqu'on fait la Brit Mila à un bébé, il y a ce qu'on appelle Tzara de Yanuka, le tsar, la douleur du bébé. Ben oui, on est en train de lui couper un acte chirurgical, il a mal. Donc le tsar du bébé nous empêche d'être sa mère. Pour dire chez Réanou, il faut être sa mère. Ah, nous dit le Réma. Ah ben, lorsqu'on est en Eretz Israël, eh bien, cette douleur, ça vaut le coup. Parce que c'est ce qui nous permet d'avoir la terre d'Israël. Alors, quand on est en Chutz la'aretz, il a stam mal. Donc, on ne dit pas chez Réanou. Donc, on voit bien ici que c'est directement lié à notre filiation, à notre rentrée en terre d'Israël. Mais ça ne suffit pas. Car certains des commentateurs vont dire, comment tu peux dire qu'ils n'ont pas fait la Brit Mila ? Eh bien, en fait, ils n'ont pas fait la Brit Mila. Certains diront qu'ils ont fait la Brit Mila, mais ils n'ont pas fait la Priya. Alors, sans vouloir rentrer dans les détails chirurgicaux, mais quand on fait la Brit Mila, hein, il faut après retourner la peau de ce qui reste du prépuce, pour qu'en fait, ben, la peau ne se remette pas et refasse pas un nouveau prépuce. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle priya. En d'autres termes, s'il n'y a pas de priya, zelo bemet mila, parce que ce n'est que zmani. Pour que la mila s'inscrive dans l'éternité, physiquement parlant, eh bien, il faut faire cette priya. Nos amis musulmans, eux, font la brit mila, mais sans faire la péria. C'est pour ça qu'ils ont un mérite sur la terre d'Israël, mais pas éternel. Donc là, ici, la première névoie qui est donnée à Yahushua en Eretz Israël, c'est quoi ? C'est « Moul et Bene Israël Shenit » pour que vous deveniez les véritables successeurs de la promesse faite à Abraham. Et donc, « Vayas Yahushua » donc je continue dans le texte, « Vayas lo Yahushua charvot tsurim vayamol et Bene Israël el givat ha'aralot » וזה הדבר אשר מל יהושע כל העם היוצא ממצרים הזכרים, כל אנשי המלחמה מתו במדבר בדרך בצאתם ממצרים, כי מולים היו כל העם היוצאים, וכל העם הילודים במדבר בדרך בצאתם ממצרים לא מעלו. נוסיף קונדי, en Égypte ils étaient brit milé, mais pas lorsqu'on était dans le désert. En d'autres termes, quand on a ouvert tout à l'heure, on a dit, l'objectif de la névoie maintenant, c'est de l'achlim. Et bien voilà. Il est temps de l'achlim, ce qui nous manquait dans le désert. Ce qui nous manquait dans les déserts, c'était eh bien, cette appartenance à la terre d'Israël. Alors, on comprend le texte de la Torah. On sait que dans le livre de Bereshit, la Mila, elle est là pour nous ben, montrer qu'on est lié à la terre d'Israël. Mais la Sheela, c'est l'ama d'Afkasa. Pourquoi c'est d'Afka la Brit Mila ben, qui va faire que... Pourquoi est-ce que Dieu nous a demandé d'Afka de faire ça ? C'est chez l'Akdola. Dieu le Talmud, la Brit Mila, c'est ce qui nous enlève un trop-plein de Artsiout, un trop-plein d'enracinement sur la terre. C'est-à-dire, le fait d'avoir la Brit Mila nous permet de dire nous ne sommes pas que des animaux naturels. Naturellement parlant, on est né avec un prépuce. Le fait de faire la Brit Mila et d'Afka dans cet organe-là, qui est l'organe qui est le plus physique possible, puisque c'est avec lui qu'on va arriver au plaisir physique le plus important, eh bien, en coupant un morceau, je ne parle pas de tous les bienfaits que ça fait au niveau de la médecine, machin, nan, 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 ça te permet de prendre conscience que moralement, tu t'élèves au-delà de la nature. Et donc, on s'élève au-delà de la nature en faisant cette Brit Mila et on peut donc prendre bah, véritablement conscience de notre identité. Iné, je poursuis donc dans le texte. Karbaim shana alchu bnei Israël bamidbar atom kol agoy agol anshei milchama yotzim mitzrayim asher lo shamu bekol Hashem asher nishba Hashem lahem lebilti arotam et haaretz asher nishba Hashem laavotam latet lanu eretz zavat chalav udevash. On ne pouvait pas ne pas rappeler ici la faute des explorateurs. Évidemment. Puisque si on te dit maintenant que la Brit Mila, c'est pour t'élever au-delà de la nature, quel est le danger? Ben, le danger, c'est que tu penses que donc je n'ai plus rien à faire avec la nature. Je suis dans un autre niveau, je suis au-dessus de tout ça. Donc, comme on ne veut pas que tu penses cela, eh bien, on vient te rappeler, regarde, tes ancêtres, c'est ça qu'ils ont pensé. Ils ont refusé de rentrer en Eretz Israël parce qu'ils étaient bien dans leur perfection du désert. Vous savez, on dit que, disent nos sages, que Dor Amidbar, En Laem Chelek Le Olam Haba. Que la génération du désert, ils n'ont pas part au monde futur. Lama, qui aime Gvar Kiblou. Via Rabbi Meleminov, il dit Gvar Kiblou, Bamidbar. Dans le Midbar, ils avaient de la manne, ils avaient des habits qui ne se détériorent pas, ils avaient Moshe, machin, les nuées protectrices. Ce n'est pas ce monde-ci. Donc eux, ils ont déjà vécu leur Olam Haba. Ils n'ont pas besoin d'avoir une autre part au Olam Haba. En d'autres termes, vos ancêtres n'ont pas voulu prendre une part active dans le dévoilement de Dieu dans le monde. Il est fondamental que tu comprennes, Yehoshua, que tu es ben, le dirigeant de la génération qui fait le tikkun, de la génération qui va s'impliquer dans le dévoilement de Dieu dans le monde. Et donc, faites benem et kim tartam, otam kol, otam mal Yehoshua, ki areli mayu, ki lo malu otam badarer. En d'autres termes, on vient te dire, le derech est terminé. Nous sommes arrivés à la maison. Le Rav Kook, dans son commentaire sur Pirkei Avot, nous dira à propos de la Mishnah, Ezehu Gibor Akovesh et Yitzro. Ça, vous connaissez bien. Le Rav Kook dit, il y a un Yetzer lorsqu'on arrive en Eretz Israël. Quel est le Yetzer lorsqu'on arrive en Eretz Israël? C'est de dire, Igati, Zehu, j'ai plus rien à faire. Je suis là. Le problème, c'est que si tu dis ça, hein, tu vas tomber. Parce que si tu n'avances pas, et je reprendrai ici cette phrase extrêmement poétique de Mohamed Larbi Sliman dans Rabbi Jacob, chapitre 2, lorsqu'il dit « La révolution, c'est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe. » Je dirais « Le rapprochement à Dieu, c'est comme une bicyclette. Quand tu n'avances pas, bah, tu régresses. » Et c'est exactement de cela qu'on parle. Ici, on est en train de te dire, sache que maintenant, on est arrivé. À derech nigmar. Mais en fait, c'est pas vrai. À derech bamidbar nigmar. Il est temps maintenant de prendre conscience qu'on ouvre un nouveau derech. Et ce nouveau derech, c'est le derech à la maison. C'est-à-dire, on est en train de construire. Machal lema davar domé, ça ressemble à quoi ce qu'on est en train de dire? Eh bien, à quelqu'un qui construit une maison. Il construit sa maison. Tant qu'il a construit la maison, ben lui, il n'est pas à la maison. Tant qu'il est en chantier, lui, il habite ailleurs. Et il sait très bien qu'il n'est pas chez lui. Mais une fois que le kablan lui a donné les clés et que ça y est, il rentre à la maison, si tu penses que maintenant, il n'y a plus rien à faire, tu risques fort de te retrouver dehors de cette maison très rapidement. Car c'est maintenant que commence le travail. À l'opposition de ce qu'on a appris avec Disney, que Disney nous a appris que l'histoire s'arrête où ils se marièrent. C'est-à-dire qu'on les voit passer sous la roupa à la limite. Et l'histoire s'arrête, le film s'arrête. Et vous et moi, on sait que la vraie histoire commence seulement après qu'on soit rentré dans la maison. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'Am Israël va pouvoir s'exprimer pour de vrai. De la même façon que ce soir, nous fêtons Yom Yerushalayim, mesdames. Vous comprenez bien que tant qu'on n'était pas revenu à Jérusalem, on n'avait pas vraiment notre mot à dire en termes d'influence sur le monde. Maintenant qu'on est revenu à Jérusalem, nous avons un message à donner à l'humanité. À Sabotay, quand on va venir, on continue. Vayika asher tamu kol agoy liimol, vayishvu tartam bamachane adchayotam. Donc là, on a pu se poser pendant 3 jours, histoire que tout le monde se repose. Donc, une fois qu'on a pris sur nous l'idée d'être un acteur actif dans la suite des événements, qu'est-ce qui se passe ? Yomer Hashem El Yoshua, Hayom Galoti et Herpat Mitzraim Alechem, Vaikra Hashem Amakom Ahu Gilgal, Ad Hayom Azé. C'est quoi cette névoie que Dieu nous donne à Yoshua ? Ça y est, enfin, Galoti, c'est-à-dire que j'ai donné la Geoula, Mikherpat Mitzraim Me'alechem. Donc maintenant, je fais 1 plus 1. C'est quoi Kherpat Mitzraim ? À Orla. À Orla, c'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, cette Achiza Yetera, cet attachement trop à la nature. Maintenant, ça y est. Maintenant, on va pouvoir discuter. On ne pouvait pas discuter ensemble tant que vous étiez sous l'emprise de l'Égypte. Et c'est ce qui va faire dire certains des commentateurs qu'en Égypte, tout le monde n'a pas fait la Brit Mila, que les 80% qui ne sont pas sortis d'Égypte sont ceux qui n'ont pas fait la Brit Mila en Égypte. Velama lo asu Brit Mila b'Mitzrayim, parce que les gens qui étaient Meoulim, c'était une cherpa, c'était une toaiva pour les Égyptiens. Parce que justement, ils pensaient que ça amoindrissait leur lien avec les dieux qui n'étaient autres que les expressions de la nature. Donc, toutes les pièces du puzzle sont mises en place. Maintenant, on peut avancer. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Vayachanu, Bnei Israël, Vagilgal, Vayasu et Apesach, Barba Asar Yom, La Chodesh, Baerev, Bervot Yericho. On nous dit qu'ils font Pesach. Pas mal. Il a fait. Ils ont fait Pessah. Quel chidouche. Ok, ils ont fait Pessah, c'est très bien. Mais pourquoi la Torah me le dit ? Ils ont dû faire Pessah l'année dernière également. Et l'année d'avant, et l'année prochaine. Eh bien, la réponse est que non. D'abord, dans le désert, ils n'ont pas fait Pessah. Il y a eu Pessah Mitzrayim. Ensuite, on a le Pessah de la deuxième année, qui est en fait la première fois où on fait Pessah en mode Pessah. Pas en sortie d'Égypte. Et après, la Torah ne nous parle pas d'un autre Pessah qu'on ait fait dans le désert. Ici, on nous parle de Pessah. Lama. Eh bien, tout simplement, parce que à chaque fois dans le Tanakh, on nous dit que Am Israël fait Pessah, et c'est la première fois, ici, quand on sort de la Torah, quoi, dans le Nakh, la première fois, à chaque fois qu'on nous dit qu'on fait Pessah, c'est qu'on vient de sortir de l'idolâtrie. Dès qu'on vient de sortir de l'idolâtrie, boum, Pessah. Alors évidemment, le premier Pessah qu'on sort de l'idolâtrie de l'Égypte, bien sûr. Le Pessah de la deuxième année, c'est juste après le Vaudor. Et là, on est juste après la Avoda Zara de l'exil. On était 40 ans dans le désert. Et je vous rappelle ce qu'on a lu, pas il y a si longtemps, hein, on l'a lu là dans la paracha de cette semaine dans la Torah. Que Akadosh Baruch Hu va tout simplement dire et répéter Venatati lachem et eretz kenaan liot lachem l'Elohim. Et Rashi, dans ce verset de la paracha de Berkukotai, eh bien, ramène les paroles du Talmud dans le traité de Ketubot en disant tout celui qui habite en Chutz Laaretz ressemble à celui qui est idolâtre. C'est terrible. T'imagines, Am Israël dans le désert, qui est guidé par les nuées d'Akadosh Baruch Hu, quelque part, est idolâtre. Zéa Avodazara chez la Galoute. On sort de cette Avodazara-là. Alors, c'est une Avodazara qu'on n'avait pas le choix. C'est Dieu qui nous a demandé. Même aujourd'hui, il y a plein de gens qui habitent en Khoutzlaharetz qui n'ont pas le choix. Donc, c'est l'autre Bémet Avodazara. On dira le Talmud dans le traité de Psachim, page 8. Avodazara, c'est la page 8. Israël, chez Bechoutzlaharetz, ovde Avodazara betahara hem. C'est-à-dire qu'on est idolâtre, mais pur. C'est-à-dire qu'on a des circonstances atténuantes. En l'occurrence, ce n'est pas de notre faute. D'accord, ce n'est pas de ta faute que tu es en exil, c'est de ta faute que tu n'en sors pas. Ça, c'est un autre problème. Le fait est qu'ici, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ? On est en train de nous dire que ça y est, Am Israël peut être enfin Behemet Oved Hashem. Jusqu'à présent, quelque chose manquait. Jusqu'à présent, il y a quelque chose qui faisait écran à l'attachement du peuple juif à Akadosh Baruch. J'ai dit d'un côté c'était l'exil, mais il y a un autre truc qui faisait écran. Vous savez, dans la paracha de Kitavo, Moshe dira Velo natan lachem Hashem lev ladat veinaim lirot veoznaim lishmoa ad hayom hazeh. Genre jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez rien compris. Et expliquera le Meshech Chochma, Rabbi Meir Simcha Cohen de Dvinsk. Ad hayom hazeh, vous n'avez rien compris parce que jusqu'à aujourd'hui, vous étiez encore persuadé que les miracles viennent de moi. Aujourd'hui, je vais mourir et enfin, vous allez comprendre que c'est moi, je ne suis rien du tout. Moi, je suis un être humain comme tout le monde, mais que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Ici, nous dit Akadosh Baruch Hu, Zeu, Akol Tov, vous pouvez maintenant enfin vous réaliser. Il y a fait, tous les feux sont au vert, donc on peut y aller. Quel? Non. Parce que pour l'instant, ce n'est que théorique. On s'est détaché de la Touma de l'exil, on a enlevé la Chérupat Mitzrayim, on a fait la Brit Mila, on est prêt à participer. Bon, ben, y'a là, participe. Et donc, la Torah nous dit, iné. Vaish, Vayachlu me'avur ha'aretz mimachorat ha'pesach. Matzot ve'kalui be'etzem ha'yom hazeh. Vayishbot ha'yam mimachorat ואוכלם מעבור הארץ, ולא עוד, עוד לבני ישראל מן המן, ויאכלו מתבואת הארץ כנען בשנה ההיא. לתורה תודנקו נודי, יפודמן, תרמיני, אם הפלאו מתנו מורג'ה, דוסקולטר פרודוי. וי, עונדדי דפיל דבי, דמנר תיאורי, כמתנו ופוי פרונד רין פרקטיב. בבא, אילתן למונטרי. אדון סטמן, qui était justement le moment où on montrait par au maximum, paroxysme, que nous, on ne fait pas, on fait juste confiance à Dieu. Et bien maintenant, le fait qu'on va manger, mais à vous, à Aretz, on va manger de la récolte qu'on va récolter d'ici, et bien c'est la preuve que ça y est. Maintenant, nous sommes actifs, parce que pour avoir une récolte, il faut la travailler, il faut la faire pousser. Et donc maintenant, nous prenons une part active dans le dévoilement de Dieu. Donc j'ai envie de dire, ça y est. Il n'y a plus rien à faire. On est arrivé au top du top. On peut lancer la névoie. Il ne pouvait pas y avoir de meilleure névoie pour lancer notre participation à ce que Dieu il a envie de faire dans ce monde. Et pourtant, il manque une chose. Et c'est ce qui amène les derniers versets de ce chapitre. Il manque une chose fondamentale. Regardez, nous sommes au verset Yud Gimel. Vaï biyot Yoshua bi Yericho. Donc Yoshua est face à Yericho, il n'a pas encore conquis Yericho, bien sûr. Vaïsa enav vayar veine ish omed lenegdo. Vecharbo shlufa beyado. Nous sommes face à Yericho. C'est la nuit. Et Yoshua voit devant lui un homme avec une épée brandi devant lui. Misé. Misé à Ben Adam Azé. Vayeler Yoshua Elav, Vayomer Lo. Alanu Ata, Imletzaharenu. Tu es là pour nous faire du bien ou pour nous faire du mal? Mazé. Nous disent nos sages dans le Talmud, hein, que lorsqu'on parle de Ish Batanach, c'est Malach. Yoshua voit donc un Malach devant lui, qui lui bloque en fait le chemin, avec une épée. C'est une névoie hein, qui est terriblement effrayante. Ou rassurante. C'est-à-dire, s'il est de notre côté, genre, t'inquiète pas, je suis ton garde du corps, Azmatovu Manaim. Mais s'il te dit, à ta l'over, tu ne passeras pas. C'est compliqué. Un malach avec une épée. Un malach avec une épée. Est-ce qu'on aurait déjà rencontré ce genre de choses? Ou est-ce qu'on aurait déjà rencontré un malach avec une épée? Quelqu'un sait? Quelqu'un sait quand est-ce qu'on a déjà rencontré un malach avec une épée, Rabotai? Ken? Nachon, vous le dites? Un malach avec une épée? Nachon? C'est très bien, vous avez compris? Kol HaKavod. Vous avez compris que le chat de YouTube ne marche pas et donc vous m'écrivez sur WhatsApp. C'est très bien, vous êtes extrêmement réactive. Moi, je vous avoue, je n'aurais pas compris aussi vite. Donc, kol hakavod. Évidemment, Gan Eden, Nachon, vous avez tellement raison. Mais Gan Eden, il y a et akruvim, imla, ta cherev amita pechet. Et leur objectif là-bas, c'est quoi? Lishmor et derech et achayim. Bon, alors, vous avez dit Gan Eden, j'entends, très bien, kol hakavod. Est-ce que il y aurait un autre moment où on nous parle d'un malach avec une épée? Ah, je ne vais pas vous faire des anachotes. Vous m'avez dit Gan Eden, kol hakavod. Mais trouvez-moi un autre moment où il y a un malach avec une épée. J'entends ce que vous dites par rapport au bruit. Bah oui, mais en mal à sorte, il y a des travaux à côté de chez moi et c'est malheureux, mais Zemayesh, je peux rien faire. Je peux rien faire à ce niveau-là. Yaakov, non? Pourquoi Yaakov? Yaakov, il a vu des malachim monter sur l'échelle, mais c'est la gamo. Mais il n'a pas vu une épée. Et si tu parles du combat qu'il a fait avec le malach, à aucun moment on nous dit que ce combat a été fait à coup d'épée. Donc non, c'est pas de l'épée. Un autre moment, un autre malach avec une épée, Rabotai. Allez, je vous laisse encore quelques secondes pour trouver. Est-ce qu'on va avoir la personne qui va nous donner la réponse? Allez, je vous le dis. Bilam. Dans la paracha de Balak, lorsque Bilam arrive, eh bien, il est mis à mal par son ânesse. Et qu'est-ce que l'ânesse voit? Eh bien, l'ânesse voit... Ah oui, non mais Myriam, c'est facile quand je le dis. C'est trop facile. Stop, je plaisante. L'ânesse voit effectivement un malach avec une cherev shtoufa. Et ça se passe où? Ben, ça se passe dans la même région. Lishmor et derech etzachaim. C'est quoi derech etzachaim, slicha? Alors, quand on parle du Gan Eden, évidemment que ça nous parle, puisqu'on connaît le etzachaim qu'il y avait dans le Gan. Mais comme vous le savez très bien, le Gan Eden, ce n'est pas un endroit physique. Donc, ça veut dire que ce que représente le Etz Hachaim, c'est quelque chose, c'est une idée générale. Mais qu'est-ce que c'est? C'est pas un arbre violet. C'est quoi Etz Hachaim? Eh bien, nous le savons grâce au livre de Michelet. Car dans Michelet, Shlomo HaMelech nous dit Etz Hachaim hi la machazikim ba vetomecheh ameushar. Et de quoi parle le roi Shlomo? Oui, il parle de la Torah. Ici, ce malach, il vient garder le chemin de la Torah. De quoi parlons-nous? Lorsque Yoshua vient le voir et lui dit, t'es de notre côté ou t'es pas de notre côté? Répond le malach. Vayomer, lo! Mazel lo. Mazel. Quand Yoshua, il voit un malach avec une épée, il dit, t'es avec nous ou t'es contre nous? Il pense à quoi? À quoi il est en train de quoi il s'occupe, là, Yoshua? Ben, il s'occupe des préparations de la guerre contre Yericho. Donc, il se dit, t'es avec nous, t'es contre nous, t'es un malach, béad Yericho ou béad nous? Et le malach, lui répond, lo! Lo, lo, lo! Anilo, kashur, les ai. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour parler ni de la guerre, ni pour, ni contre. Ah bon? Alors, ma! Ki ani sar tseva Hashem. Ata bati, je suis venu pour le problème de maintenant. Je suis venu vous accuser maintenant. Ah bon? Mais quoi? Vaipol Yoshua alpana vartza. Vaishtachu vayomer lo. Ma adoni medaber el avdo. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, qu'est-ce que tu fais? Nous disent dans le sage dans le Talmud qu'on a dit, il est là pour garder la Torah. Et il vient faire des réprimandes à Yoshua. Parce qu'il dit à Yoshua, vous avez cessé d'étudier la Torah. Comment ça on a cessé d'étudier la Torah? Mais on ne peut pas étudier la Torah là maintenant, on est en pleine milchama. Nachon, nous dit le Talmud, c'est Nachon, qu'en tant que de milchama, tu n'es pas là pour étudier la Torah, tu dois te battre. Mais là, c'est la nuit. Et la nuit, tu te bats pas. Donc, Ve'agita bo yomam valaela, yomam, tu peux passer la guerre. Mais laela, pourquoi t'étudies pas? Et de là, nos sages nous apprennent que l'anu be omkam shel alacha, que pendant toute la nuit, ils ont étudié la Torah, que Yoshua a compris. Mais qu'est-ce que nous, ça nous apprend? Eh bien, ça nous apprend, dans tout ce qu'on a dit, que maintenant, nous devons prendre part active au dévoilement de Dieu sur cette terre d'Israël. Mais pour ça, il faut qu'on soit accompagné de cette Torah. Car si on vient sur la terre d'Israël et qu'on ne vient pas au nom de la Torah, très vite, on ne saura pas quoi faire ici. Ce qu'on appelle aujourd'hui le post-sionisme. Le sionisme était animé par une volonté d'arriver à la maison. Mais maintenant qu'on est arrivé à la maison, s'il n'y a pas de Torah derrière, eh bien très vite, on te dit, en fait, qu'est-ce que je fais là? En Suisse, j'étais mieux. Quand tu es animé de Torah, alors tu sais qu'en fait, tu es là pour remplir le rôle qu'Akadosh Baruch Hu a donné, à savoir de le dévoiler, à savoir d'apprendre au monde entier comment devenir quelqu'un qui s'attache à Dieu. Alors, c'est de cela qu'on parle. Ici, le Malach vient dire « Ani shomer et derech etzachayim » si vous ne prenez pas ce chemin-là de la Torah, alors vous n'arriverez pas à remplir le rôle qui est le vôtre. Et c'est pour ça que le Sar Tseva Hashem lui dit « Vayomer Sar Tseva Hashem el Yoshua Shal ne'alecha me'al ragecha ki amakom asher ata omed alav kodeshu » Enlève ta sandale de ton pied. On connaît ça. On a déjà vécu ça. Avec Moshe, au Sné. Lorsqu'il était au buisson, Dieu lui a dit « Enlève ta sandale de ton pied. » Lama. Pourquoi il faut enlever sa sandale quand on est au buisson ou alors quand on rentre en Eretz Israël? Lama. Ben, en fait, la question, elle est inverse. Pourquoi est-ce qu'on a des chaussures? Pourquoi est-ce que d'après la halakha, Assur les palel yachef? Assur la lechet yachef. Alors, il y a un problème de piquar nefesh. Parce que c'est dangereux aujourd'hui de se balader pieds nus. Mais au niveau rayoni, la chaussure, c'est ce qui fait écran entre toi et la nature. Il y a des forces dans la nature. La Torah te dit, tu n'as pas le droit de trop t'imprégner de ces forces de la nature. Il faut être en osmose avec la... Mais au niveau de la Kedusha, hein, tu ne peux pas y trouver de la Kedusha. C'est ce que le Rav Kook appellera Kedusha Shebat Teva. La Kedusha Shebat Teva, eh bien, le fiyah halakha bechutz al haaretz, on n'a pas le droit de prier Yerefim ou de marcher Yerefim. Parce que la Kedusha de la Teva là-bas, en fait, elle est beaucoup trop imprégnée de Tum'a chez la Teva. Alors, lorsque tu es Bemakom Kadosh, Shal ne'alcha me'al raglecha. Enlève ta chaussure de ton pied. Pourquoi? Parce que ici, tu peux t'imprégner de la Kedusha. De la Teva, évidemment. Parce qu'ici, Be'eretz Israël, bon alors au buisson, quand c'était l'époque du buisson, mais l'époque du buisson, c'était que au moment du buisson. C'est-à-dire que maintenant, tu montes sur le mont Sinaï, si du moins tu sais où c'est, tu vas en chaussure, il n'y a pas de problème. Mais lorsque tu es Bemakom Kadosh, Be'eretz Israël, Akdusha Lozaza, eh bien, tu n'as pas le droit d'être en chaussure. Alors aujourd'hui, le pas le droit d'être en chaussure, ce n'est que Be'arabait. Be'et Amikdash, tu n'as pas le droit d'être en chaussure, tu dois être pieds nus. Parce que tu dois là-bas t'imprégner de l'Akdusha qui est là-bas. Be'eretz Israël, c'est lo chova, aval c'est moutar. Moutar, l'itpalel yachef. Aval, on ne le fait pas. Pour deux raisons. Un, parce qu'on a trop pris l'habitude d'être en chutz la'aretz. Ve'bet, qui anashim lo rigilim. Et vu que les gens ne comprennent pas de quoi il s'agit, ils sont encore trop imprégnés de là-bas. Mais Be'ezrat Hashem, quand on retournera au Beit HaMikdash, eh bien, on enlèvera les chaussures pour s'imprégner de la Kedusha. Comme dit, je disais tout à l'heure le Rav Kook, dans un texte dans Rota Kodesh qui s'appelle Milchemet HaKodesh VeHateva, que le Kodesh religieux, spirituel, doit pouvoir arrêter sa guerre avec la Kedusha qu'il y a dans la nature et pouvoir créer ensemble une osmose vers ce qu'il appellera HaKodesh HaElyon. C'est ça, la Madriga de Eretz Israël. La madriga de la névoie qui s'ouvre avec Yehoshua, c'est cette dimension de s'imprégner de la Kedusha qu'il y a ici. On a dit, pas trop. C'est pour ça qu'on a commencé le Perek par la Brit Hamila. Tu ne peux pas être trop imprégné de la Teva. Mais trop peu, c'est tout aussi une avéra. Qu'est-ce qui va te permettre d'avoir le juste milieu, de savoir comment bon, ben on l'a masé et dévoilé à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est la loun be omka shel halacha. C'est d'être toujours imprégné de cette Torah. Ce premier chapitre de notre premier cours qui ouvre notre étude sur la névoie nous dit quoi? Eh bien, nous dit la chose suivante, Rabotai. La névoie post-Moshe a pour rôle de nous dire à vous de jouer. La balle est dans votre camp, c'est à vous maintenant de participer. Pour cela, il fallait enfin enlever les restes de l'Égypte, donc faire la Brit Mila. Faisant la Brit Mila, nous pouvons enfin nous détacher de la Avodah Zara complètement, et donc on refait Pessah. Comme on a refait Pessah, alors bah pour Pessah, il faut manger des matzot. Et donc on peut enfin arrêter de manger de la manne, qui montre notre dépendance, confiance, mais dépendance à Dieu. Et nous pouvons enfin lui montrer que nous sommes prêts à tout simplement bah, nous-mêmes faire sortir le blin de la terre. Et enfin, nous n'avons jamais oublié et nous n'oublierons jamais que ce qui nous permet d'avoir toujours à l'esprit notre objectif, pourquoi on est là, pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a ramenés ici, eh bien, c'est la loun be'yom kashel halacha, c'est de tout simplement s'imprégner de cette Torah, Torah Teretz Israël, qui va nous montrer le chemin pour comprendre quel est notre rôle et comment le réaliser. Et pour cela, eh bien, nous enlevons nos chaussures de nos pieds et nous imprégnons de cette Kedusha qui est ici, tout en étant conscient qu'il y a une dimension transcendante qui nous guide pour nous donner le chemin à suivre. Voilà notre première étude sur la névoie. C'est en fait une espèce d'ouverture, d'introduction pour nous dire maintenant, c'est à vous de relever le défi. Tant que Moshe était là, c'était lui qui faisait tout. La névoie de Yehoshua et jusqu'à la fin de la névoie dans Zechariah, Haggai et Malachi, qu'on verra, je ne sais pas quand, un petit peu plus tard, eh bien, toute la névoie est là pour nous dire c'est à vous de jouer. Il n'est plus temps de s'en remettre à Moshe, mais il est temps de s'en remettre à vous, à Israël. Vous pouvez y arriver. C'est le message qu'Akadosh Baruch Hu nous donne lorsqu'il ouvre ces 1500 ans de prophétie qui vont commencer avec Yehoshua et prendre fin avec les derniers prophètes de l'époque de début du deuxième temple. Mais bon, on a le temps pour y arriver. On va prendre notre temps, léat léat, pour finalement réussir à comprendre quel est notre rôle ici à jouer. Shabbat shalom v'chag sameach. Ce soir, Yom Yerushalayim, ceux qui veulent, je donne un cours à 18h sur Yom Yerushalayim. Je vous enverrai tout de suite le lien. Shabbat shalom et koulam.